Claude, on parle aujourd'hui pour commencer d'un homme qui ne veut pas mourir.
Ce qui est une aspiration légitime,
oui.
Mais Michel Drucker la prend plus au sérieux que nous autres. Il pose, vous verrez cet après-midi, en une du magazine du Monde en tenue de cycliste, car le vélo garantit l'éternité. Michel Drucker, 76 ans. Il a sorti un livre avec le docteur Michel Allard, jadis médecin de Jeanne Calment. Mais si Drucker a fait ce livre, c'est pour savoir. Je l'ai trouvé touchant, dit le docteur Allard au Monde. C'était comme une consultation. Il m'a demandé s'il faisait tout bien comme il faut pour obtenir son diplôme de longévité. Il m'a demandé s'il pouvait faire comme Claude François, qui s'injectait un anti-vieillissant à base de couilles de taureau, de Roumanie les taureaux. Le docteur a répondu que pour devenir centenaire, il faut avoir un fort conatus, c'est un concept de Spinoza, l'envie de persévérer dans son être. Et on parle donc dans le magazine du Monde d'un homme qui veut persévérer dans son être et notamment audiovisuel. Car France Télévisions songerait à le sortir de l'antenne, Drucker, mais il se bat et il connaît tout et tout le monde. Et même Brigitte Macron qui lui a dit ceci, à Amiens, d'où je viens, vous êtes là depuis toujours. On parle dans le Monde d'un homme que les Français adorent. Et qui dimanche dernier, c'est dans Sud-Ouest, enchantait encore ses admirateurs à Pau, où il signait son livre et qui cette semaine était chez Hanouna pour parler de Patrick Sébastien, c'est dans Téléstar. Oui, mais de ce gentil, le Monde révèle un monstre. Mich-Mich, Don Drucker, le Dorian Gray du PAF, dont le visage frais masquerait une âme tout entière dévouée à sa survie, lui qui poussa Jacques Martin à l'AVC en lui volant ses dimanches d'après-midi. Allons, Delphine Ernotte a invité Michel Drucker à déjeuner en septembre pour son anniversaire. Il ne veut pas que cela cesse. Nous en sommes tous là qui croyons, innocents, détenir l'éternité.
Et on entend dans l'Obs, Claude, la voix d'un homme mort qui changea le Monde.
Il s'appelait Boris Yeltsin et présidait la Russie il y a 25 ans quand l'harmonie semblait possible et un président américain était l'ami de ce Russe qui poussait son peuple vers le marché et la démocratie. « Je t'embrasse de tout mon cœur », disait parfois Yeltsin à Bill Clinton entre 1993 et 1999. Les conversations des deux hommes viennent d'être déclassifiées et sont donc publiées dans l'Obs, magazine et internet. En 1993, Yeltsin est en campagne présidentielle. « Je n'ai pas le droit de perdre. Ce serait une trahison. Nous avons 60 000 entreprises privées. 30 millions de gens sont propriétaires. Ils ne veulent pas d'un retour en arrière. Clinton, je veux t'aider à continuer. Yeltsin, la Russie a goûté à la liberté. Donnez-nous du temps. Dans 5 ans, nos deux pays seront en compétition dans les arts, le jazz, le pétrole. Enfin, pour le jazz, je ne suis pas certain. Clinton, oui, peut-être pas pour le jazz. Mais en matière culturelle, c'est nous qui devrons vous rattraper. Mais ensuite viennent les nuages, car la Russie souffre économiquement et l'Amérique veut étendre l'OTAN aux pays de l'Est. Et Yeltsin y voit un encerclement. Novembre 1999, c'est la dernière rencontre. Bill, dit Yeltsin, donne l'Europe à la Russie. Les États-Unis ne sont pas en Europe. La Russie peut assurer la sécurité de l'Europe. Je suis sérieux, Bill, donne l'Europe à la Russie. Mais Clinton est élu, Yeltsin n'est déjà plus là. Vladimir Poutine va venir. On connaît la suite. Les espérances ont-elles existé ou bien tout était écrit dès le début? Et ce vertige et cette question transforment notre lecture des journaux qui hésitent donc toujours entre la catastrophe et les promesses. Le magazine des Échos, passionnant, décrit la Silicon Valley chinoise, ce delta de la rivière des Perles, traversé désormais par un pont prométhéen, où 108,5 millions d'habitants fabriquent l'usine du monde. Oui, mais sous la puissance, la pollution tue les ouvriers. Choisissez. Le Point, après d'autres, mais avec talent, montre l'enfer chinois où les autorités inscrivent des codes barres QR sur les portes de maisons pour surveiller les gens. Y allons-nous.
Le désarroi en France, Claude.
Et le désespoir aussi chez ces migrants qui sont prêts à mourir pour ne pas rester chez nous. La Voix du Nord en fait sa une. Il n'y a jamais eu autant de tentatives de passage en Angleterre dangereuses sur ces petites barques parfois volées à des pêcheurs. On arrête les migrants sur les plages. Ce désespoir côtoie la colère autochtone quand des gilets jaunes crient aux élites leur détresse sociale dans la Croix. Ont-ils une idée de ce qu'on vit? Et le Parisien fait témoigner des Français qui n'y arrivent pas, pourtant à 2000 euros par mois. Ce n'est pas la pauvreté, mais l'exaspération sociale. Marianne raconte les vols qui enserrent les campagnes et qui sont parfois le fait de bandes venues des pays de l'Est, mais pas seulement, car des ostréiculteurs de chez nous volent les huîtres et des viticulteurs les grappes des voisins. Et en même temps, le Parisien, qui dit les fins de mois difficiles, choisit de me faire rêver avec la ville de demain, le grand Paris humain où les légumes pousseront sur les toits et des transports en commun rénovés, cahier spécial, me feront respirer. Choisissons. Allons, il n'est pas que la colère, même si elle fait cette colère de bon mot. Le prix Goncourt, Nicolas Mathieu a dit dans Mediapart que les personnages de son roman « Leurs enfants après eux » étaient semblables aux gilets jaunes. « Oui, mais ces personnages sont aussi des clichés !» lui a lancé une adolescente à Nancy. Nicolas Mathieu arrive, je ramasse mes dents et je réponds. La scène est dans le magazine du Monde encore. Un chouette reportage qui requinque sur la fabrication du Goncourt des lycéens, ce grand oral de nos grands auteurs chaque mois d'octobre devant 2000 chouettes jeunes lecteurs. Et cette jeunesse des livres est aussi ce que je peux choisir ce matin. Quand Lopes me raconte la Starac des écrivains, c'est-à-dire le master de création littéraire de l'Université Paris 8 qui a produit, tiens, David Lopes, prix du livre Inter cette année pour Fief et qui attend qu'un nouveau venu vienne le niquer. Je cite, Libération raconte les éditions Turfu, futur en verlan, lancées par des lycéens du Poitou qui vont publier en livre de jeunes auteurs gratis sur Internet. Le premier titre est un roman en vers, L'art délicat de rater sa vie. Allons, ce n'est pas écrit.